la chronique « Je lire » proposée par Henri Landré.
C'est la chronique « Je lire » et « Je lire » ces temps-ci, un livre de Maya Angelou qu'on m'a offert et qui s'intitule « Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage », c'est-à-dire son autobiographie. Maya Angelou est une figure forte et essentielle de la littérature afro-américaine, aussi du combat pour l'égalité des droits et du combat féministe. C'est aussi une très grande poète dont j'avais lu dans une autre émission quelques fragments de son « Je m'élève ». Maya Angelou raconte donc sa vie et son parcours depuis sa plus tendre enfance jusqu'au combat des années 70 et même avant. Elle s'est éteinte en 2014, elle était née en 1928 et j'en suis au tout début de ce livre qui compte quelques 350 pages. J'en suis vraiment à l'enfance, page 65 très exactement, et pour vous en donner un peu à entendre et vous faire entendre la voix de Maya Angelou, alors évidemment, ici traduit par Christiane Bess, et donc un extrait de ce livre « Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage » qui originellement a été publié en 1969, eh bien rien de mieux que de poursuivre ma lecture en votre compagnie. J'en suis donc au chapitre 8. Stamps, Arkansas, c'était Fouette Andouille, Géorgie, Pendelet, Haut-et-Court, Alabama, te trouve pas ici au coucher du soleil négro, Mississippi, ou n'importe quel autre nom tout aussi évocateur. Les gens à Stamps disaient que les préjugés des blancs de notre ville étaient tels qu'un noir ne pouvait pas acheter de la glace à la vanille, sauf pour la fête nationale. Les autres jours, il devait se contenter de glace au chocolat. Un rideau avait été tiré entre la communauté noire et toute chose blanche, mais on pouvait suffisamment voir au travers pour développer en soi une peur, admiration, mépris à l'égard des objets des Blancs, leurs voitures, leurs maisons étincelantes, leurs femmes et leurs enfants. Le plus enviable, c'était cette opulence qui leur permettait le gaspillage. Ils possédaient tant de vêtements qu'ils pouvaient donner des robes parfaitement portables, juste un peu usées sous les bras, à la classe de couture de notre école pour les travaux pratiques des grands élèves. Bien que la générosité des Noirs fût permanente, elle obligeait toujours à un sacrifice. Ce que donnaient les Noirs à d'autres Noirs était très probablement aussi désespérément nécessaire aux donateurs qu'aux bénéficiaires. Donner ou recevoir devenait de ce fait un échange plein de richesses. Je n'arrivais pas à comprendre les Blancs ni ce qui leur conférait le droit de dépenser de l'argent avec autant de prodigalité. Bien entendu, je savais que Dieu était blanc lui aussi, mais personne n'aurait réussi à me faire croire qu'il avait des préjugés. Ma grand-mère avait plus d'argent que tous les pauvres petits cutéreux blancs. Nous possédions de la terre et des maisons, mais chaque jour, on nous avertissait, Bailey et moi, qui ne gaspille pas ne manque pas. Chaque année, Moma achetait 2 coupes de tissu pour nos habits d'hiver et d'été. Elle taillait mes sarraux d'écolière, mes jupons, mes culottes, mes mouchoirs, les chemises de Bailey, ses caleçons, ses tabliers à elle, ses peignoirs et ses blouses, dans les rouleaux expédiés à Stamps par Sears & Roebuck. Oncle Willie était la seule personne dans la famille à porter en permanence des vêtements de confection. Chaque jour, il arborait des chemises blanches propres et des bretelles à fleurs, et ses chaussures spéciales coûtaient $20. J'estimais Oncle Willie d'une vanité coupable, surtout lorsque j'avais à repasser 7 chemises raides d'empesage en évitant tout faux pli. Durant l'été, nous allions pieds nus, sauf le dimanche, et nous avions appris à ressemeller nos chaussures quand elles cédaient, comme disait Moma. La crise avait dû frapper la section blanche de Stamp avec la force d'un cyclone, mais, tel un voleur hésitant, elle ne s'insinua que lentement dans le quartier noir. Le pays y fut en proie 2 ans avant que les Noirs de Stamp ne la connussent. Je crois que tout le monde chez nous pensait que la crise, comme le reste, était réservée aux Blancs et qu'on n'avait donc rien à voir avec. Nos gens vivaient de la terre et comptaient sur la cueillette du coton et sur la saison du sarclage et de l'abattage pour rapporter l'argent nécessaire à l'achat des chaussures, vêtements, livres et quelques outils de ferme dont ils avaient besoin. C'est quand les propriétaires des champs de coton réduisirent les salaires de 10 cents par livre de coton à 8, puis 7 et finalement 5 que la communauté noire se rendit compte enfin que la crise n'opérait pas de discrimination. Les organisations d'assistance sociale distribuèrent des vivres aux familles pauvres, noires et blanches. Des kilos de lard, de farine, de sel, d'œufs et de lait en poudre. Des gens cessèrent d'élever les cochons parce qu'il devenait trop difficile de faire de la pâtée assez riche pour les nourrir et personne n'avait suffisamment d'argent pour acheter du tourteau ou de la farine de poisson. Moma passa bien des nuits à calculer lentement sur nos ardoises, cherchant le moyen de poursuivre son commerce quoique ses clients n'eussent plus de quoi la payer. Une fois arrivée à ses conclusions, elle nous ordonna « Bailey, je veux que tu me fasses un bel écriteau bien clair, beau et bien propre. » Et toi, sister, tu pourras me le colorier avec tes crayons de couleur. Je veux mettre une boîte de 5 livres de lait en poudre s'échange 50 cents. Une boîte de 5 livres d'œufs en poudre s'échange 1 dollar. 10 fois 2 boîtes de maquereau s'échangent pour 1 dollar. Et ainsi de suite. Moma continua de faire tourner sa boutique. Nos clients n'avaient même pas à rapporter leurs allocations de vivres chez eux. Ils allaient les chercher au centre de distribution en ville et les déposaient en passant au magasin. S'ils ne voulaient rien en échange dans l'immédiat, on inscrivait à leur crédit, sur un des grands registres gris, le montant qui leur revenait. Nous étions une des rares familles noires à ne pas recevoir de secours, mais Bailey et moi étions aussi les seuls enfants parmi nos connaissances condamnés à absorber tous les jours les œufs et le lait en poudre. Les familles de nos petits camarades échangeaient les vivres dont elles ne voulaient pas contre du sucre, du pétrole lampant, des épices, de la viande en conserve, des saucisses, du beurre de cacahuète, des biscuits, du savon de toilette et même du savon tout court. Nous ne manquâmes jamais de nourriture, mais tous deux nous détestions le lait grumeleux et les œufs spongieux et, parfois, nous nous arrêtions chez des gens beaucoup plus pauvres pour y déguster du beurre de cacahuète et des crackers. Stamps fut aussi lent à sortir de la crise qu'à y entrer. La Seconde Guerre mondiale était déjà bien avancée avant qu'un changement notable ne se produisît dans l'économie de ce hameau quasi oublié. Un jour, à Noël, nous reçûmes des cadeaux de notre père et de notre mère qui vivaient séparément dans un paradis appelé la Californie où, nous disait-on, on pouvait manger toutes les oranges que l'on voulait et où le soleil brillait tout le temps. Pour moi, ce n'était pas vrai. Impossible de croire que notre mère s'amusait en mangeant des oranges au soleil sans ses enfants. Jusqu'à ce Noël et ses cadeaux, j'avais été persuadé que mes parents étaient tous deux morts. Je pouvais pleurer dès que j'en avais envie en imaginant ma mère, je ne savais pas très bien à quoi elle ressemblait, étendue dans son cercueil. Ses cheveux très noirs s'étalaient sur un minuscule oreiller blanc et son corps était recouvert d'un drap. Le visage était brun, rond comme un grand O et, puisque je ne pouvais pas lui dessiner de traits, j'imprimais « mère » en travers du O et les larmes me coulaient sur les joues comme du lait chaud. Puis arrivèrent ce terrible Noël et ses affreux cadeaux. Quand notre père, avec cette vanité caractéristique que je devais lui découvrir, nous envoya sa photo. Le paquet de ma mère contenait un service à thé, une théière, 4 tasses et leur soucoupe et 2 minuscules cuillères, et une poupée aux yeux bleus, aux joues roses et aux cheveux jaunes peints sur son crâne. J'ignore ce que reçut Bailey, mais après avoir ouvert mes paquets, j'allais dans la cour, derrière le chinaberry. Le jour était froid et l'air aussi clair que de l'eau. Il y avait encore de la gelée sur le banc, mais je m'assis et pleurais. Je levai la tête et vis Bailey sortir des petits coins en s'essuyant les yeux. Il avait pleuré lui aussi. Je ne savais pas s'il s'était raconté également qu'ils étaient morts et qu'ils venaient d'être confrontés avec la dure réalité ou si simplement il se sentait abandonné. Les cadeaux ouvraient la porte à des questions qu'aucun de nous ne voulait poser. Pourquoi nous avait-il expédiés loin d'eux ? Et qu'avions-nous fait de si mal? Si mal? Pourquoi, à 3 et 4 ans, avait-on dû nous mettre tout seuls, avec des étiquettes autour du bras, dans le train de Long Beach, Californie, à Stamps, Arkansas, avec juste l'employé des wagons-lits pour s'occuper de nous? D'ailleurs, il était descendu en Arizona. Bailey vint s'asseoir à côté de moi et, pour une fois, il ne me reprocha pas de pleurer. Je pleurais donc, et il renifla un peu, mais nous ne parlâmes pas, jusqu'à ce que Moma nous rappela à la maison. Debout, devant l'arbre que nous avions décoré de scintillants et de jolies boules colorées, Moma nous dit « Les enfants, vous êtes les choses les plus ingrates que j'ai jamais vues dans ma vie. Croyez-vous que votre maman et votre papa se sont donné la peine de vous envoyer des jolis joujoux pour que vous alliez pleurer dehors dans le froid ?» Aucun de nous ne prononça un mot. Sister, je sais que tu as le cœur sensible, mais toi, Bailey Junior, tu n'as aucune raison d'aller miauler comme un chaton, juste parce que tu as reçu un cadeau de Vivian et Bailey Senior. » Et comme nous ne répondions toujours pas, elle demanda « Voulez-vous que je dise au Père Noël de tout remporter ?» Je me sentis en proie au plus terrible déchirement. Je voulus crier « Oui, dis-lui de tout remporter !» Mais je ne bougeais pas. Plus tard, Bailey et moi nous bavardâmes. Il affirma que si c'était vraiment maman qui avait envoyé ces objets, cela signifiait peut-être qu'elle se préparait à venir nous reprendre. Peut-être avait-elle été simplement furieuse de quelque chose que nous avions fait, mais nous ayant désormais pardonné, nous enverrait-elle chercher bientôt ? Le lendemain de Noël, nous éventrâmes la poupée pour en ôter tout le rembourrage. Mais Bailey me prévint qu'il valait mieux ne pas abîmer le service à thé parce que maman pouvait arriver n'importe quel jour ou n'importe quelle nuit. C'était un extrait de « Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage » de Maya Angelou, titre qu'elle a d'ailleurs emprunté à la grande chanteuse Abel Lincoln. Traduit ici de l'américain par Christiane Bess, c'est une édition livre de poche. Le livre est originellement paru en 1969. Et pour conclure cette chronique, je lis ce morceau de Ben Harper qui emprunte un poème de Maya Angelou, « I Rise ».
You may write me down in a history with your bitter, twisted lies. You may trod me down in the very dirt, and still like the dust I'll rise. Does my happiness upset you? Why are you blessed with gloom? 'Cause I laugh like I've got an oil well pumping in my living room. So you may shoot me with your words, you may cut me with your eyes, and I'll rise, I'll rise, I'll rise, rise, rise. Out of the shacks of history's shame, up from a past rooted in pain, I'll rise, I'll rise, I'll rise, rise, rise. Now did you want to see me broken, bowed head and lowered eyes, shoulders falling down like teardrops weakened by my soulful cries? Does my confidence upset you? Don't you take it awful hard, 'cause I walk like I've got a diamond mine breaking up in my front yard. So you may shoot me with your words, you may cut me with your eyes, and I'll rise, I'll rise, I'll rise, rise, rise. Out of the shacks of history's shame, up from a past rooted in pain, I'll rise, I'll rise, I'll rise, rise, rise. So you may write me down in history with your bitter twisted lies. You may trod me down in the very dirt, and still like the dust I'll rise. Does my happiness upset you? Why are you best with gloom? 'Cause I laugh like I've got a gold mine digging up in my living room. Now you may shoot me with your words, you may cut me with your eyes, and I'll rise, I'll rise, I'll rise, rise, rise. Out of the shacks of history's shame, up from a past rooted in pain, I'll rise, I'll rise, I'll rise, yes, I'll rise. So you may shoot me with your words, you may cut me with your eyes, and I'll rise, I'll rise, I'll rise, rise, rise. Out of the shacks of history's shame, up from a past rooted in pain, I'll rise, I'll rise, I'll rise, rise, rise. I'm gonna rise.